Je voudrais prendre quelques exemples seulement ce matin. Pour nous qui nous appelons les chrétiens, qui nous réclamons de Jésus-Christ. La fois dernière, j'ai posé la question de savoir en quoi nous croyons. Qu'est-ce qui fait que nous pensons que nous croyons en Dieu. Aujourd'hui, la question qui nous arrive, c'est qui est Jésus-Christ pour nous? Vous savez, frères et sœurs, en Jésus-Christ, c'est très difficile de pouvoir dire à un autre la vérité. J'ai constaté que vous pouvez être des jumeaux. Vous pouvez être des pères et fils. Père et fille, mère et fils, mère et fils, mère et fille, et vous pouvez être des conjoints, des amis, des collaborateurs. Vous pouvez même être le chef de quelqu'un. Il est difficile de lui dire la vérité. Et malheureusement, cette vérité, quand tu lui l'as dit, celui qui l'entend ne sait pas que tu as peut-être pris des années, tu as peut-être pris des jours pour réfléchir avant de l'interpeller. Et la vérité, lorsqu'elle sort, est peu reçue par ceux à qui tu t'adresses. Qui est Jésus-Christ pour nous? Lorsque je prends Matthieu 26, 27, pour les Israélites, les Juifs, les sacrificateurs, les magistrats, les gouverneurs, les soldats, les pharisiens, les sadducéens, les scribes, c'est quelqu'un qui venait mettre du désordre dans leur ordre. Parce qu'ils ont résumé Dieu à eux-mêmes. Ils pensaient que c'est eux qui connaissent Dieu, c'est eux qui peuvent expliquer Dieu comme il est. Ils croyaient que ce qui était écrit dans la... Ils n'avaient pas essayé de comprendre la... Ce que c'est que Dieu est esprit, comme l'a dit Jésus-Christ à la Samaritaine. Et il faut que tous ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. C'est là les adorateurs que Dieu demande. Ils ne le savent pas. Ils croient que Dieu est seulement dans les Écritures. Et ils interprètent les Écritures à leur manière, au point où dans la même synagogue, dans le même temple, les gens peuvent avoir différentes idées. Ils sont devenus des sectes. Moi, je crois qu'il y a la résurrection. Moi, je ne crois pas à la résurrection du tout. Quand l'homme meurt, il est mort pour toujours. Et ils sont dans le temple. Or, Jésus-Christ, la Bible, toute la Bible parle de la vie éternelle. Mais tous ceux qui étaient là croyaient au moins en ce qui concerne la grande partie, que c'est une société hiérarchisée pour le pouvoir humain. Donc, je suis pharisien. Je suis sadducéen. Non, c'est moi qui suis proche du plus grand pharisien, du plus grand sacrificateur. C'est le cas de Paul. C'est moi qui ai vécu avec Gamaliel. Il m'a enseigné la Torah. Connais la Torah par cœur. Je suis saint parce que je connais la Torah par cœur. Paul ne savait pas que ça n'avait même pas fait. Il n'avait même pas encore commencé sa course. Il ne savait pas qu'il courait dans l'autre sens. Il s'était donné à la mauvaise course. Il n'était même pas dans le stade indiqué pour la course. Il courait ailleurs. Il y a Judas, l'Iscariote. Il était avec Jésus-Christ, écoutait toutes les paroles que Jésus-Christ disait. Voyez comment la parole se transformait en guérison, se transformait en alimentation, en nourriture. Voyant tout ce que Jésus-Christ faisait, mais il n'avait pas cru en Jésus-Christ. Pour lui, Jésus-Christ est une marchandise qu'on peut vendre. Le fait de dire que je suis chrétien ne veut rien dire. Je vis avec Christ, ne veut rien dire. Qui est Christ pour toi? Oh, et Judas l'Iscariote, non, c'est une marchandise. C'est un homme, un homme en qui on ne peut pas avoir confiance, un homme pour qui on ne peut pas réserver la loyauté. C'est un homme qui a pris de l'importance et on pourrait exploiter cette importance pour devenir riche. Il est allé prendre 30 pièces. Peut-être que parmi les chrétiens aujourd'hui, il y en a qui ont mis leur année, 30 ans de leur existence comme Judas, pour croyant adorer Jésus-Christ, ils ont mis leurs années pour trahir Jésus-Christ sans le savoir. Qui est Jésus-Christ pour toi? Est-il quelqu'un pour venir seulement donner, par qui on peut trouver de l'argent comme Judas Iscariote, et c'est pour cela que tu cours pour l'argent et tout ce qui ne tend pas vers cela ne t'intéresse pas? Pour Pierre, c'était quelqu'un qui faisait des merveilles. Il était le fils de Dieu. On peut lui faire confiance. Il s'est transfiguré devant nous. On a vu beaucoup de choses avec lui. C'est ensemble qu'on a marché avec Judas, Iscariote et Os et autres. Et on criait au point où les pharisiens disaient à Jésus-Christ de faire taire ses disciples. Mais quand il fallait démontrer en allant au-delà et se donner à Jésus-Christ, se montrer son amour à Jésus-Christ, qui a dit tout d'abord que Jésus-Christ ne devait pas mourir. Jésus lui a dit, Satan, loin de moi, Satan. Pierre qui a dit que s'il devrait mourir, il mourrait avec Jésus-Christ. Pierre n'a pas été capable de montrer sa face avant de commencer sa bataille. Il s'est tout simplement caché parmi les gens pour voir comment les choses se passaient. Qui est Jésus-Christ pour toi? Qui est Jésus-Christ pour nous? Pour Pierre, tant qu'il pourrait continuer de faire des miracles, il croit en lui. Et ces miracles n'ont jamais été fait en Galilée ou en Samarie ou en Judée, alors il doit être un homme spécial, il est le Fils de Dieu. Mais lorsqu'il s'agit, il a été question de lui démontrer son amour. Il a renié. Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour moi? Même si Judas l'Iscariote s'est retenu et finalement a compris et a jeté les 30 pièces, l'argent que les sacrificateurs ont donné, ils n'ont plus voulu reprendre cet argent pour le mettre dans le tronc. Ils ont acheté un terrain pour enterrer les étrangers avec cet argent de sang. Même si Judas l'a fait, Judas n'a pas aimé Jésus-Christ jusqu'au bout. Jésus-Christ lui a même dit que c'est lui qui le trahirait quand il a été allé. Quand il était en train de réfléchir à ça. Qui est Jésus-Christ pour nous? Qui est Jésus-Christ pour moi et pour toi? Le gouverneur et sa femme ont trouvé qu'il n'y avait rien de mal en lui. Le gouverneur a fait plusieurs propositions au peuple. Qui est Jésus-Christ pour toi et moi? Mes amis, c'est une chose terrible que de voir un peuple ignorant suivant des dirigeants, ignorant le peuple, les juifs ignorant suivant les pharisiens, ignorant. Mais au fait, les pharisiens n'ignoraient pas celui qui était Christ. Et le peuple lui-même n'ignorait pas celui qui était Christ en réalité. Puisque les pharisiens aussi avaient peur du peuple, les sacrificateurs avaient peur du peuple et le peuple aussi avait peur des dirigeants. Donc chacun ch cherchait le juste équilibre pour vivre. Quand les pharisiens ont commis l'erreur de faire, pas l'erreur, ont décidé de faire crucifier Jésus-Christ et on leur a proposé de leur laisser Barabbas. Mais c'est tous ensemble, le peuple et les pharisiens, c'est tous ensemble qu'ils ont crié en disant, crucifiez-le, crucifiez-le. Le gouverneur Ponce Pilate leur a dit, il est de coutume qu'on vous relâche quelqu'un. Qui voudriez-vous que je vous relâche? Il a pris le pire des prisonniers, Barabbas, qui était un meurtrier, et quelqu'un qui n'a rien fait, Jésus-Christ. Mais les Israélites, les Juifs ont dit, crucifiez, relâchez-nous, Barabbas. Relâchez-nous le meurtrier et crucifiez Jésus-Christ. Ponce Pilate a dit, dans ces conditions, moi, Ponce Pilate, je ne trouve aucun mal en cet homme. Je me lave, il est allé prendre de l'eau devant eux pour se laver les mains. Ce que je vis dans mon cœur, dans la chambre, et ce que je vois ici, ce n'est pas du tout quelqu'un que je trouve qui mérite qu'on l'arrête. Il ne mérite pas la mort. Il s'est levé les mains. Je suis innocent de ce sang. Les Juifs ont dit que son sang descende sur nous. Juste pour rester sacrificateur, juste pour rester pharisiens, juste pour rester magistrats, sadducéens et autres. Oui, nous voulons être responsables de cette mort. Glorifions Dieu qui a pu faire dire à Jésus-Christ sur la croix, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils savent. Ce sont des gens très ignorants de ce que c'est que Dieu et le royaume des cieux. Ils ignorent même ce que c'est que la parole de Dieu. Qui est Jésus-Christ pour toi? Qui est Jésus-Christ pour moi? Peut-être que j'ai cru, peut-être que je suis comme ces femmes de Jérusalem qui, au bord de la route, en voyant passer Jésus-Christ avec sa croix, pleuraient et se tapaient la poitrine. Ça leur faisait pitié. Jésus-Christ leur a dit, pleurez vous-même pour vous-même, pour vos enfants. Qu'est-ce que vous pleurez pour moi? Qu'est-ce que vous avez pu faire pour que je ne sois pas crucifié? Mais il y a aussi eu à la résurrection, non, avant la résurrection de Jésus-Christ, les sacrificateurs sont retournés voir, les Juifs sont retournés voir Ponce Pilate pour lui dire de faire garder qu'il paraît que ce monsieur dit qu'il va ressusciter après 3 jours. Donc, donne-nous des gardes. Fais garder la tombe. Ponce Pilate leur a dit, vous avez des gardes vous-même. Faites garder la tombe pour qu'on vienne vous faire selon comment vous réfléchissez pour qu'on vienne vous faire un bon rapport? Moi, je ne vous donnerai pas de garde. Ils sont allés chercher leurs gardes qui sont restés là-bas jusqu'à ce que Jésus-Christ soit ressuscité et qu'ils disent aux gardes de ne pas dire que Jésus-Christ est ressuscité, de dire que les apôtres sont venus le voler son corps. Alors, à quoi servent ces gardes? Peut-être que tu es monnaie comme ces gardes qu'on a mis pour un salaire mensuel. Nous avons accepté d'être devant la tombe, soit croyant que nous pourrons garder Dieu. Nous venons de la synagogue, mais nous pensions que nous avions le pouvoir de garder Dieu, d'offrir une garde pour le corps de Jésus-Christ. Et nous sommes restés là-bas, nuit et jour. Peut-être aussi que nous avons été comme que certains parmi nous sont comme Simon de Cyrène, à qui Dieu a fait la grâce d'être surpris par la cohorte funèbre de Jésus-Christ, triste de Jésus-Christ, et à qui on a demandé de transporter la croix et qui n'a pas dit non. Certains pourraient dire non, j'ai des droits. Vous ne pouvez pas me trouver en chemin pour me demander de prendre une croix. Je ne suis pas malfaiteur. Mais sans rien dire, il s'est chargé de la croix de Jésus-Christ pour l'aider. Peut-être que nous trouverions quelque chose à dire. Nous dirions que nous ne sommes pas de votre, que nous venons du champ, nous avons d'autres chats à fouetter, nous ne sommes pas de votre histoire, de votre cohorte, nous ne savons même pas ce qui se passe. Qui est ce monsieur pour qui je dois prendre la croix? Non, moi je viens de très loin, je suis venu de Libye pour les Pâques, les fêtes de Pâques. Je suis israélite, né de juif. Je suis quoi. Comme Paul pourrait le dire, il pourrait commencer par citer sa généalogie pour dire, vous n'avez pas le droit de me demander de prendre la croix de Jésus-Christ. Mais il l'a pris. Peut-être que nous sommes comme les soldats biais par le pouvoir, de la tête aux pieds, agissant au nom du pouvoir, ne se demandant jamais si la justice est dans ce que nous faisons ou bien si nous faisons du mal. Ils n'ont fait qu'exécuter ce qu'on leur a demandé, sans réfléchir. C'est comme ça que les patrons nous ont demandé de faire. Qui Jésus-Christ est pour toi et moi? Est-ce que nous utilisons sa loi pour condamner les autres ou nous utilisons sa loi pour les sauver? De ces soldats qui marchaient, il y avait un centenier, celui qui était leur chef, celui qui a percé la côte de Jésus-Christ. Mais avant d'arriver à celui-là, il y avait eu Nicodème, il y avait eu Joseph d'Arimathée, qui ont rendu hommage à Jésus-Christ. Il y a eu beaucoup de caractères qui se sont exprimés dans la marche de Jésus-Christ vers la croix. Beaucoup de choses se sont passées, des tombeaux ouverts, le voile a été déchiré, etc. Mais je vais m'arrêter sur le centenier, celui qui a percé la côte de Jésus-Christ après la mort de Jésus-Christ pour vérifier s'il était mort et le sang et l'eau sont sortis. Celui qui a fait descendre Jésus-Christ de la croix. Selon les recherches archéologiques, selon les recherches chrétiennes, catholiques, ce centenier s'appelait Longine ou Longinus. Au fait, l'histoire dit qu'il avait des problèmes de vue et que sans le savoir, en perçant la côte de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ qui est tombé, qui est tombé sur sa face, l'a guéri de sa cécité. Et c'est comme ça que les catholiques jusqu'à présent vénèrent ce centenier comme une des personnes qui a été l'une des premières personnes après la mort de Jésus-Christ qui a cru en Jésus-Christ, qui a déclaré que sûrement. Matthieu 27, verset 54. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Assurément, cet homme était fils de Dieu. Pour le centenier et les soldats qui le suivent, ayant vécu à Jérusalem pendant des années, ayant le souvenir de ce qu'on leur a raconté concernant la Judée, la Samarie, la Galilée, ayant le souvenir de ce qui s'est passé, ce qu'on leur a raconté sur Rome, la Grèce et autres, le monde entier. Mais voyant ce qui vient de se passer sur la montagne des crânes, ils se sont écriés en disant, assurément que cet homme est fils de Dieu. Dans Luc, on ajoutera que c'est un juste qu'il est juste. Ceux qui détenaient La Torah, la parole de Dieu, ne l'ont pas connu, reconnu juste, ni fils de Dieu. Ils l'ont combattu comme il y a encore des religions qui combattent encore Jésus-Christ aujourd'hui, même après la résurrection, au 21e siècle, qui disent qu'il n'est pas mort, qu'il n'est pas ressuscité, qu'il n'est pas fils de Dieu. Il a été un prophète. Pour toi, qui est Jésus? Pour moi, qui est Jésus? Et pour nous tous, qui est Jésus? Chaque jour, nous devons nous poser cette question de savoir qui est Jésus-Christ pour nous. Qui est Jésus-Christ pour nous? Les frères et sœurs en Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ pour vous? Si je dois être comme le centenier et ses soldats, je dirais qu'il est fils de Dieu. Il est juste. Je dirais comme Ponce Pilate qu'il n'a rien fait qui mérite la mort. Peut-être que je transporterai aussi sa croix avec lui comme Simon de Cyrène. Peut-être que je serai comme Pierre pour me dire, oui, si tu dois mourir, je mourrai avec toi. Ai-je pu comprendre pourquoi toute cette scène s'est passée au jour du Pâques? Pourquoi les Pâques se sont passées d'une manière différente avec un phénomène annoncé depuis l'Égypte, avec les premiers-nés des Égyptiens qui sont morts, alors que le sang des agneaux a sauvé les Israélites? Ai-je pu me souvenir de l'Égypte? Est-ce que j'ai pu me souvenir d'Hérode comme en Égypte a fait tuer tous les enfants qui avaient moins de 2 ans parce qu'il cherchait, il ne voulait pas que quelqu'un partage le pouvoir avec lui. Pourtant, il est mort. Hérode est mort. Il a fait tuer des enfants innocents parce qu'il pensait qu'en faisant tuer les enfants qui ont moins de 2 ans, il y aurait nécessairement ce Jésus annoncé par les rois mages qui venaient de la Perse, qui venaient de loin. Pour moi, ce que je crois, c'est que Jésus-Christ est venu pour nous éveiller, pour nous parler, pour recentrer dans nos cœurs 3 choses. Parce que pour les Juifs, Jésus-Christ a été n'est pas juste, c'est un pécheur et ils l'ont jugé. Pour moi, Jésus-Christ est venu me rappeler la nature et la véracité de ce qu'on appelle le péché, la justice et le jugement. Je dois à chaque jour avoir ça en tête. Qui est Jésus pour moi? C'est celui qui est venu me rappeler, c'est celui qui rappelle dans mon cœur chaque jour de me méfier du levain des pharisiens qui qualifient le péché, qui parlent du péché autrement que ce que Dieu pense. Pour Jésus-Christ, pour Dieu, Le péché, c'est de ne pas croire en Jésus-Christ. Jean 16, versets 8 à 11. Et quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Je n'ai pas été à Golgotha avec Jésus-Christ. Je n'ai pas été au mont des Oliviers à Gethsémané avec Jésus-Christ. Je n'étais même pas à Tabor avec lui. Mais je peux me lever sur une montagne physique ou dans mon cœur pour me dire, pour moi, ne pas pécher, c'est de croire en Jésus-Christ, en ce qu'il dit. Pour moi, je crois en Jésus-Christ et que je crois qu'il est allé au Père et qu'il m'attend là-bas. La justice parce que je vais au Père. Je ne le vois plus maintenant, mais je le verrai puisque je le sens dans mon cœur, je le sens dans ma vie. Je vois qu'il est présent. Je le verrai. Et j'ai une assurance. C'est que l'accusateur, Satan, est déjà jugé. Jésus l'a appelé le prince de ce monde dans Jean 11. Et Jean 16, verset 11, le jugement, parce que l'accusateur, Satan, le prince de ce monde, est déjà jugé. Parce qu'il est déjà jugé, je peux croire en ce que Paul, en cette révélation qui a été faite à Paul dans Colossiens 2, du verset 8 au verset 15. Colossiens 2, verset 8 au verset 15. Je peux avoir maintenant l'assurance de cette parole que c'est ainsi. Dans Colossiens 2, il est dit, alors de nous méfier de ces gens qui ont tourné la tête de ce qu'on appelle le péché, de ce qu'on appelle la justice, de ce qu'on appelle le jugement. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Vous savez, si quelqu'un a volé dans un village, s'il ne veut pas se faire dénoncer, s'il ne veut pas se dénoncer lui-même, s'il ne veut pas l'avouer, dans certains villages, on va consulter un charlatan. Et il y a de ces charlatans qui ont des pouvoirs qui font que la personne avoue. Dans certains cas, même la personne est tuée par les esprits. Et dans les villages, lorsqu'il y a tout le monde sait que c'est ce qui s'est passé. Celui-là, ils font des cérémonies avant d'aller toucher au corps parce que c'est un pécheur. Et on ne l'enterre pas dans les villages, dans un cimetière chrétien, en tout cas dans un cimetière public. Vous avez vu que la création d'un cimetière, pour ceux qui sont des étrangers, c'est là, c'est une. Comment, c'est l'image des choses qui se passeront. Et c'est pourquoi dans les villages, maintenant, il n'y en a plus dans les villages. Les gens ont crié. Il y a un cimetière pour tous ces gens qui ont péché selon la doctrine des hommes, la philosophie des hommes. Ceux qui transportent le corps ne se demandent pas s'ils sont aussi des pécheurs. C'est comme ceux-là qui ont lancé la pierre à la femme, et ceux à qui Jésus a demandé, qui voudraient lancer la pierre et à qui Jésus a demandé que celui qui n'a pas de péché lance la première pierre. Je disais donc, ce sont ces rudiments du monde qui animent les chrétiens d'aujourd'hui. C'est cette philosophie du péché, de la justice et du jugement qui anime les chrétiens d'aujourd'hui au lieu de s'appuyer sur Christ. Il s'appuie sur la tradition des hommes. La tradition. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas faire ceci. La parole de Dieu nous dit de ne pas aller dans ce sens. Car en Jésus-Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Quel que soit ce qui se passe, en Jésus-Christ, si nous ne nous appuyons pas sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, sur la philosophie, pour qualifier ce qu'on appelle le péché, la justice et le jugement, alors en Jésus-Christ, nous avons tout pleinement. Lui qui est le chef de toute domination, de toute autorité, et qui a déjà jugé Satan, qui est notre accusateur. C'est une chose très difficile à appliquer par les chrétiens. Et nous avons laissé tomber la prédication du Saint-Esprit pour revenir à la Torah, sans le savoir. Si vous allez prendre les églises, que ce soit en ville ou dans les villages, ceux qui vous parleront de Jésus par l'Esprit sont très, très, très peu nombreux. Si vous demandez à un chrétien en quoi le chrétien est juste, qu'est-ce qui est juste devait être comptabilisé comme juste devant Dieu. On vous citera les lois de la Torah avant de se souvenir que, ah, non, on est juste parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Je crois en la parole de Jésus-Christ chaque jour, dans ma vie, dans ce que je fais, dans ce que je pense, dans ce que je dis, je pense, je crois en ce que le péché, c'est plutôt faire la volonté. Non, ne pas faire la volonté de Jésus-Christ. Je crois être juste parce que je crois que Jésus-Christ m'attend. Parce que je crois ça, Jésus-Christ m'attend auprès du Père. Et je crois que ce qui s'appuie sur la tradition des hommes et qui me rappelle la loi de la Torah, la loi de l'Ancien Testament, cela, Jésus-Christ m'a demandé de me retirer de ces gens. Et c'est en lui que nous avons été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite. Mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Je suis sûr que beaucoup ne me suivent pas, beaucoup ne sont pas d'accord parmi les chrétiens, mais voici quelqu'un qui a servi la loi. Paul, qui a couru, a fait la mauvaise course dans l'autre sens, qui a prêché la loi, qui a tué même, qui a jeté des gens en prison pour la loi, qui vient nous dire que il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Quel spectacle que de pousser Jésus-Christ le frapper, le blesser jusqu'à Golgotha, pensant qu'il n'est pas juste, qu'il a péché, et que d'être accepté, d'être pardonné par celui-là sur la croix pour ce que nous faisons, de rentrer même dans le royaume des cieux parce que nous avons cru en sa parole. Et quel spectacle public que de voir les soldats qui l'ont battu, qui l'ont crucifié, déclarer que assurément celui-ci est le Fils de Dieu. Veux-tu continuer de vivre en étant dans la tradition des hommes, dans la philosophie, dans les rudiments du monde et rater le mystère de la croix? Veux-tu reclouer Jésus-Christ sur la croix en croyant comme Saul qui était au pied de Gamaliel, la parole de Dieu dit que Saul a changé. Même Gamaliel, l'histoire dit que Gamaliel a changé, a cru en Jésus-Christ. Veux-tu être le disciple d'un ancien Saul qui fait la mauvaise course, ou veux-tu être le disciple d'un nouveau Paul, d'un nouveau Saul, de Tarse, qu'on appelle Paul, qui a compris que ces choses ne comptent plus parce que Jésus-Christ a couru tout ceci sur le croix. Que Dieu nous soutienne, nous qui avons encore une autre idée du péché, de la justice et du jugement. Jésus-Christ dit que le Saint-Esprit est là essentiellement pour ces trois choses. Si tu ne veux pas être considéré comme pécheur, crois en la parole de Dieu, ce que Dieu t'a dit. En croyant en lui, j'ai cloué le péché qui est avec lui, couer le péché sur la croix. Et en croyant en lui, je suis ressuscité avec lui, et je suis devenu riche et juste. Et je ne suis pas jugé, mais Tout ce dont on me condamne a été annulé par le sang de Jésus. Et le Saint-Esprit me conduit. Que Dieu vous bénisse tous surabondamment après la fête qui est Jésus-Christ pour moi, qui est Jésus-Christ pour toi. Dieu nous bénisse surabondamment. Amen.